Le 7 septembre 1812, Napoléon pense enfin tenir sa bataille décisive après 2 mois de dérobade. Nous sommes en pleine campagne de Russie. La grande armée se rapproche de Moscou et voilà que l'ennemi fait front près du village de Borodino. 200 000 hommes participent à ce combat d'une violence extrême. Les pertes sont énormes. Au terme de la journée, les Français ont remporté la victoire tactique. Mais le général Kutuzov s'enfuit dans la nuit avec ses troupes. 2 récits vont alors se former pour servir des intérêts opposés sous le contrôle des 2 chefs. C'est la victoire de la Moscova pour les uns ou la bataille de Borodino pour les autres. Voici donc la suite de notre série avec les officiers stagiaires de l'école de guerre. Elle montre comment les Russes ont transformé une retraite en un moment fondateur de leur histoire nationale. Je suis avec le chef de bataillon Baptiste Aubier et le commissaire en chef Alexandre Rogliano. Bonjour.
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 Alors Alexandre Rogliano, est-ce que vous pourriez commencer par rappeler les faits? Nous sommes donc en pleine campagne de Russie.
Donc il faut revenir un petit peu en arrière. Le 22 juin 1812, les troupes napoléoniennes qui veulent faire appliquer le traité de Tilsit, notamment par la Russie, envahissent la Russie. Et les troupes donc du tsar vont commencer à se retirer progressivement. Ils vont quitter le camp de Drissa. Ils vont se replier également sur Smolensk et ils vont quitter Smolensk. Et on se retrouve sur une position fortifiée à Borodino, qui va être effectivement construite par les troupes du tsar avec des redoutes, avec des positions fortifiées pour justement faire face aux troupes napoléoniennes qui s'avancent. Et on va avoir là une bataille qui sera effectivement d'une boucherie sans nom, notamment par les témoins de l'époque, qui vont effectivement raconter à quel point l'usage de l'artillerie va être terrible. Et donc, effectivement, on aura énormément de morts. On les estime à 40 000 morts côté russe et 28 000 morts côté français.
Dans l'esprit de Napoléon, il s'agit d'une bataille qui doit être décisive.
Dans l'esprit de Napoléon, il s'agit d'une bataille qui doit être effectivement, décisive. Il a énormément tiré ses lignes de communication, il est loin de ses bases, et donc il a besoin, notamment pour affirmer son pouvoir en France, mais également affirmer son pouvoir au sein de sa propre armée, il a besoin d'une victoire qui doit être décisive. Et le terme, notamment le terme de Moscova qui est appliqué à cette bataille, lui permet effectivement de rendre cette bataille décisive. La veille de la bataille, il rappelle effectivement que c'est une bataille qui est assimilable à celle d'Austerlitz. C'est effectivement le terme de Moscou qui est effectivement qui peut avoir une connotation un peu romantique, lui permet effectivement de rendre cette bataille complètement décisive auprès de ses troupes et également en France, puisque effectivement le communiqué où le bulletin sera rédigé à la suite de la bataille seront lus par la population.
Il faut bien dire que Napoléon est le maître du récit et qu'il organise la geste de ces batailles à la fois pour les Français mais aussi à l'international. Comment procède-t-il exactement? Sur quel type de documents s'appuie-t-il?
Napoléon, finalement,
Baptiste Aubier.
Il a, sur la question du récit, il a totalement innové en construisant une véritable légende autour des bulletins de la Grande Armée. C'est-à-dire que lorsqu'il mène une bataille, il rédige lui-même, le soir de la bataille, le compte-rendu de la bataille. Et ce compte-rendu est immédiatement expédié à Paris, repris dans toute la presse française qui est sous contrôle, et en général également repris dans la presse étrangère. Donc ça lui permet de présenter les batailles et les événements sous le jour qui lui est favorable et qui sert pour lui un but politique. Quand il raconte la bataille de Marengo, il ne raconte absolument pas qu'il a été surpris par l'offensive autrichienne et qu'il a fallu perdre la bataille, et qu'il n'a été sauvé que par l'arrivée du général Desaix. Il explique qu'il a largement pensé en amont une manœuvre de retraite permettant d'exposer les Autrichiens à la contre-attaque du général Desaix qu'il avait ordonné. Ça lui permet en fait de construire son mythe d'invincibilité, ça lui permet de renforcer son pouvoir en France, ça lui permet de renforcer sa propagande vis-à-vis de l'étranger et derrière de dissuader les États hostiles de l'attaquer. Et c'est exactement ce qu'il fait en réalité juste après la bataille de la Moscova. La bataille de la Moscova, comme vous l'avez dit, c'est une bataille non décisive. Il a enfin obtenu la bataille qu'il souhaitait contre les Russes, sauf qu'elle ne permet pas de détruire l'armée russe parce qu'il se retire. Du coup, Napoléon a besoin de construire un récit qui explique pourquoi il est allé se balader à 4000 km de ses bases sans réussir à détruire l'armée russe. qu'il explique que la Moscova, c'est l'équivalent d'Austerlitz, que ça lui livre Moscou, que les Russes vont tout simplement se rendre. Il l'explique à travers son bulletin, en racontant la bataille sous un certain jour, en minorant ses propres pertes. Alors là, c'est là qu'il est très intelligent, c'est qu'au lieu d'expliquer qu'il a créé beaucoup plus de pertes à l'ennemi que ce qui serait la réalité, il donne les pertes correctes chez l'ennemi, à peu près 40 000 hommes, et il dit qu'il a perdu 10 000 hommes. En fait, il en a perdu 30 000. Mais comme c'est lui qui est maître du champ de bataille, qui va aller vérifier? Qui va aller compter les cadavres français? Personne. Donc cette argumentation n'est pas attaquable. Donc il montre qu'il a eu trois fois moins de morts que l'ennemi, qu'il est resté maître du terrain, qu'il va prendre Moscou, qu'il a gagné cette bataille à la Moscova, ça sonne comme Moscou, les Français comprendront pourquoi il a pris Moscou, et donc que cette victoire, l'équivalent d'Austerlitz, fait de la campagne de Russie l'équivalent de la campagne d'Allemagne. Tout ça est extrêmement bien construit dans son récit à travers le bulletin.
Ce qui est intéressant, c'est que l'autre général, Kutuzov, va lui aussi arranger les événements et les raconter à sa façon. Il va livrer un récit au tsar qu'on pourrait presque qualifier de mensonger, Alexandre Rogliano.
Oui, tout à fait. Kutuzov est dans la même position que Napoléon. Il a besoin d'une victoire. Il a besoin d'une victoire. Il a été nommé très récemment. Le tsar ne le porte pas en grande estime, mais son prédécesseur, Barclay de Tolly, a eu des choix tactiques assez décriés. Et donc, on a besoin effectivement d'un Russe à la tête des troupes du tsar. Et donc, on fait appel à Kutuzov. Et lui, dans cette position-là, il a besoin d'une victoire. Donc, la bataille est effectivement une boucherie. Il se replie. Il va effectivement exagérer les pertes ennemies dans la lettre qu'il envoie au tsar. Il va indiquer qu'il poursuit l'arrière-garde française, qu'il a envoyé un détachement sous les ordres du général cosaque Platov pour poursuivre l'arrière-garde française, et ce qui s'avère effectivement un mensonge. Et il garde le silence pendant plusieurs jours. Il a défendu à ses généraux de communiquer auprès du tsar. C'était effectivement une des problématiques de Barclay de Tolly qui a été très contestée, notamment par le général Bagration. Et donc, l'absence de communication permet effectivement de donner une seule version des faits auprès du tsar. Et donc, celui-ci reçoit, dans une angoisse fiévreuse, cette bonne nouvelle. Et donc, il va derrière récompenser Kutuzov, il va le faire maréchal. Il va le récompenser financièrement et puis il va effectivement donner un tédéum pour fêter cette grande victoire.
Cette grande victoire qui en réalité n'existe pas, mais on peut comprendre cette démarche par la pression très forte de l'opinion russe qui ne comprenait pas pourquoi l'armée ne cessait de reculer depuis des semaines.
Oui, effectivement, comme on l'évoquait au début, lorsque les troupes napoléoniennes ont commencé à envahir le territoire russe, les troupes de Barclay de Tolly n'ont fait que reculer. Elles n'ont fait que reculer parce qu'elles ne se sentaient pas prêtes, elles étaient déjà inférieures en nombre. Et également, les troupes du tsar étaient divisées, c'est-à-dire qu'on avait au nord les troupes de Barclay de Tolly et on avait au sud les troupes du général Bagration. Et donc, ils se sont retrouvés dans l'impossibilité de se rassembler et donc d'opposer à Napoléon des troupes supérieures en nombre. Et donc, ils n'ont cessé de reculer. Et postérieurement, je dirais même rétroactivement, cette tactique a été présentée comme une démarche stratégique pour affaiblir les troupes de Napoléon, parce que ça les forçait à allonger finalement leur ligne de communication, ce qui s'est avéré vrai au final, puisque à la veille de la bataille, que ce soit les troupes du tsar, mais surtout les troupes napoléoniennes, elles étaient exsangues. Le soutien était très compliqué. Ils n'arrivaient pas à nourrir les chevaux, on manquait d'eau. Donc la situation était très compliquée. Et cette tactique de Barclay de Tolly a été effectivement énormément critiquée, notamment par le général Bagration, qui a envoyé plusieurs missives au tsar pour lui indiquer qu'il n'était pas du tout d'accord avec cette tactique-là. Notamment, le général Barclay de Tolly a été accusé, puisqu'il n'était pas russe, de ne pas avoir un sentiment, l'état d'esprit russe, l'honneur russe pour défendre le territoire. Et c'est ce qui a conduit à nommer un général russe en la personne de Kutuzov qui, effectivement, pouvait se targuer de récentes victoires contre les Turcs.
En tout cas, la version de Kutuzov triomphe et le tsar, même quand il se rend compte de la supercherie, pourrait-on dire, est bien obligé de s'y ranger d'une certaine façon et on l'intègre dans le, ce qu'on pourrait appeler le récit national russe parce que c'est à ce moment-là, dans cette bataille, peut-être Baptiste Aubier, que la Russie découvre ce sentiment national qui est une idée nouvelle.
C'est tout à fait vrai. Et ça a été vu aussi rétroactivement comme, très paradoxalement, un instant de contamination révolutionnaire au sein de la Russie. Finalement, le nationalisme né en France est rentré en Russie via la campagne de 1812. Il y a un certain nombre d'historiens qui voient une origine fondatrice. Et effectivement, ça se caractérise par le récit qu'on va faire de cette bataille de Borodino. On a cette bataille de Borodino avec un récit fait par Kutuzov qui vise d'abord à vivre. À sauver sa tête, tout simplement. Disons-le, Kutuzov, général vaincu qui vient de perdre sa capitale, il raconte les choses de façon à ce que le tsar ne le relève pas. Sachant que de toute façon, le tsar ne le porte en très faible estime. Il n'attend qu'une seule occasion pour le relever. Sauf que, par l'enchaînement des circonstances, on y croit, à son récit, et on y croit d'autant plus que, par métonymie, on va associer Borodino à l'ensemble de la campagne de Russie, et que la retraite napoléonienne qui s'est avérée désastreuse, poursuivie par l'armée de Kutuzov, est vue comme le summum du plan lancé par Kutuzov visant à affaiblir Napoléon à Borodino et à le poursuivre durant la retraite de Russie. Et ça, c'est un récit qui se trouve notamment chez Tolstoï dans les années 1830 et qui est dont on fait quasiment un récit d'État en Russie pour montrer que, par Borodino, l'âme du peuple russe a réussi à vaincre le conquérant. Et donc, on associe à cette bataille de Borodino le peuple russe en général. Alors, pour le coup, on va profiter du fait que c'était un affrontement masse contre masse peu tactique pour expliquer que c'est le courage du peuple russe qui a sauvé la situation, ce qui n'est pas faux au demeurant. En y associant un aspect religieux, les troupes ont été bénies, et puis au-delà des troupes bénies, l'aspect religieux, c'est aussi la défense de la Sainte Russie, Troisième Rome, les représentantes de l'Église orthodoxe face aux envahisseurs. Et le tout dans un sentiment d'adhésion à la personne du tsar qui caractérise l'image de la Russie. Tout ça est encouragé au XIXe siècle. On a cité Tolstoï, mais on aurait pu citer Pouchkine, on aurait pu citer Lermontov, on aurait pu citer Tchaïkovski dans l'ouverture 1882, qui met à l'honneur tous ces thèmes de la bataille symbolique de la lutte à la fois populaire, religieuse et nationale, dans une optique tsariste pour la défense de la personne du tsar. Et ce récit existe en tant qu'objet historique au XIXe siècle, indépendamment de ce qui s'est réellement passé à Borodino. Et ça, c'est fascinant.
Parce qu'il y a une relecture des événements. Cette campagne de Russie, finalement, le repli avait été parfois plus subi que réellement prémédité. Et a posteriori, on a l'impression qu'il y avait cette stratégie depuis le début de retrait pour piéger les Français loin de leur base et dans ce terrible hiver russe. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'URSS va reprendre cette légende de Borodino au moment de la Grande Guerre patriotique. En réalité, la Grande Guerre patriotique, c'était déjà à Borodino. Ce n'était pas d'abord contre l'Allemagne nazie.
Oui, oui.
Alexandre Rogliano.
Oui, effectivement. Borodino, mais finalement, c'est au-delà de Borodino, c'est la campagne de 1812, va être effectivement... Le thème va être repris par les différents tsars, notamment à partir de Nicolas Ier. On va avoir des monuments commémoratifs, on va avoir des artistes qui vont reprendre le thème. Et puis, on va avoir également Nicolas II, qui va effectivement commander une grande fresque retraçant le panorama global de la bataille pour mettre en avant l'action du peuple. Mais après Nicolas II, finalement, il va y avoir, une absence de Borodino dans le discours politique, jusqu'à effectivement l'invasion par les troupes soviétiques en 1941, où à partir de ce moment-là, la campagne de Russie va être évoquée par Staline pour motiver les troupes russes. On est sur une campagne de 1812, comme on l'a évoqué, où la dimension populaire et la dimension religieuse sont importantes, mais surtout la dimension populaire. Et c'est un petit peu cette dimension-là qu'évoque Staline lorsqu'il fait mention de la campagne de 1812. Et donc, cette idée-là va rester. Il y a une espèce de filiation que l'on fait aujourd'hui entre la guerre patriotique de 1812 et la grande guerre patriotique de 1941. Et je dirais jusqu'à même récemment, puisqu'en 2012, on a fêté effectivement le bicentenaire de la bataille de Borodino. Cette idée d'une filiation entre ces deux grandes campagnes a été reprise par le président de la Fédération de Russie. Il y a une idée qui est vraiment ancrée dans l'esprit national russe quant à cette place éminente de Borodino et cette filiation avec ces deux événements historiques.
Et aujourd'hui, est-ce que cette idée de mettre une bataille en récit, quitte à arranger la réalité, vous semble importante à prendre en compte, Baptiste Aubier ?
Aujourd'hui, c'est tellement important que quasiment toutes les armées modernes ont créé des cellules de communication qui sont chargées de porter la voix des armées. Vous avez des porte-paroles des armées, vous avez des porte-paroles qui racontent, qui produisent ce qu'on appelle un narratif, c'est-à-dire une façon de raconter les choses sous un angle qui est favorable toujours systématiquement, ou qui est en tout cas, qui sert un objectif. Parce que finalement, cette histoire de récit, ce qui est fascinant, c'est qu'au-delà de la bataille, qui est un fait historique, on a également une façon de raconter la bataille, qui a des objectifs politiques et qui devient elle-même un fait historique. Et on a toute une science historique, l'historiographie, qui étudie la façon dont on raconte les choses en histoire. Et on n'est jamais neutre à partir du moment où on produit un récit. Faire un récit, même pour un historien, ça suppose d'avoir choisi une limitation temporelle, un début, une fin, géographique, de raconter certaines choses plutôt que d'autres, de raconter les choses dans un certain ordre et avec une certaine lecture. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il y a du subjectif. Il y a même toujours du subjectif dans le fait de raconter quelque chose, qu'on en soit conscient ou pas. Et ce n'est pas du tout la même chose de parler, par exemple, de la colonisation des écoliers français en 1930 ou en 1965 ou en 2010. Donc, créer une réflexion autour de ce qu'on va raconter, la façon dont on va présenter les choses, bien sûr que ça a du sens, et c'est même aujourd'hui absolument décisif dans les conflits modernes. On a coutume de dire que les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam à l'instant où on a sorti une photo montrant une fillette bombardée par des bombardements au napalm. Et ça leur a fait un tel mal dans l'opinion publique américaine, qui n'a plus soutenu la campagne, que c'est effectivement une des principales causes du retrait américain au Vietnam. Aujourd'hui, toutes les armées en sont conscientes, toutes produisent du récit, d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas forcément un mensonge d'ailleurs. Et à une exception près, d'ailleurs, Kutuzov n'a pas menti sur le compte-rendu de la bataille. En revanche, il a laissé raconter des mensonges sur ce que lui avait écrit. Et ça, c'est assez intéressant.
Il y a les armées classiques qui utilisent ce procédé. Et récemment, nous l'avons vu utilisé d'abondance aussi, cette communication par les groupes terroristes, Alexandre Rogliano.
Un champ nouveau apparaît effectivement dans les luttes armées, qui est le champ informationnel. On en parle beaucoup actuellement. Et effectivement, la perception que les belligérants, mais également que la communauté internationale peut avoir d'un conflit, devient primordiale. Et ça, c'est un fait qui n'est pas forcément nouveau, puisqu'on a vu qu'effectivement, la communication, la capacité à créer un narratif, à le diffuser, la capacité également à convaincre les opinions a toujours été quelque chose d'important, mais la vitesse de l'information telle qu'on peut la vivre aujourd'hui avec le développement des médias rend cet aspect-là des choses dans la bataille de plus en plus important, et ça l'est effectivement, comme vous l'avez évoqué, pour le terrorisme, mais ça l'est également pour bien d'autres conflits, parfois beaucoup plus classiques, comme on peut le voir de par le monde, et notamment dans l'actualité récente.
Eh bien, un grand merci à tous les deux. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochain épisode autour de la conduite des opérations dans la guerre de Crimée. Merci beaucoup et à bientôt.